Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de création. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi c'est Louise, je suis autrice, coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club il y a quelques années. Dans ce podcast, j'interviewe des plumes qui ont décidé de s'emparer des mots pour dire, révéler la vie, l'humain, la créativité. Et parfois tout simplement juste pour aider et inspirer. Pour cette nouvelle saison, il y a une nouveauté. Tu peux maintenant faire partie de la communauté du podcast sur Tipeee. Mais c'est quoi cette plateforme? Eh bien, c'est une plateforme qui sert à soutenir le podcast, ainsi que d'autres créateurs. Et ce contenu que je crée avec le cœur, il pourra ainsi continuer à vivre sa vie durant plusieurs saisons. Tu peux ainsi l'aider à se développer en faisant un don, un tip, après l'épisode que tu as écouté. Et en échange de cela, tu as accès à des bonus ou à d'autres contenus inédits. Alors, après cette écoute, rendez-vous sur Tipeee. Le lien se trouve dans le descriptif de chaque épisode et sur mon Instagram. Ah, voilà, on respire. C'est parti. On va plonger dans de nouveaux échanges vibrants, passionnés. Parce que oui, les mots délivrent. Il suffit juste un jour d'oser exprimer. Voilà, c'est à nouveau mon tour de revenir vers le micro toute seule. Comme je vous l'avais annoncé, ou parfois j'en avais parlé avec certaines personnes, j'avais envie de faire un nouvel épisode hors série qui viendrait boucler, probablement boucler, même s'il y a d'autres choses qui arrivent après, qui viennent boucler un petit peu toute cette phase de je dépose mon manuscrit, j'attends une ou des réponses, mais surtout j'attends la réponse positive, le fameux oui. Votre livre va pouvoir être publié. Ce jour est arrivé, donc on commence bien. on commence par une bonne nouvelle. Et j'ai réfléchi, est-ce que je fais un épisode encore ou pas? Et très rapidement, j'ai quand même eu ce flash très intuitif qui était « Oui, évidemment que tu vas faire un épisode parce que sinon... » la seule chose que tu vas envoyer aux autres, aux plumes, à la communauté... De ces personnes qui créent, qui écrivent, c'est juste oui, c'est génial et je suis sur un petit nuage. Donc en fait, tant mieux, c'est une belle nouvelle et j'ai vraiment, ça fait plus d'un mois, un mois et demi que je suis sur un petit nuage réellement. Mais c'est tellement facile d'envoyer uniquement cette face-là, heureuse de l'issue d'un projet d'aussi longue haleine. J'ai fait mon petit examen intérieur et je me suis dit que ce serait vraiment pas super honnête et super juste dans la mesure où ça a été une période avant le oui qui a été très ambivalente, très complexe parce que cette attente, elle a été longue et elle m'a amenée dans des endroits parfois qui étaient beaucoup plus sombre, en tout cas épuisant physiquement, émotionnellement. Donc en fait, pour vous faire un petit résumé de l'épisode qui vous attend, on commence bien avec une bonne nouvelle et on va finir bien avec quelque chose qui est que du kiff pour l'instant, de jour en jour, de semaine en semaine et pour la suite qui s'annonce heureuse parce que la bonne nouvelle du début et puis de la fin de l'épisode, elle reste la même, c'est que La femme seule va être publiée très bientôt aux éditions Academia en Belgique, une maison d'édition qui est à Louvain-la-Neuve. C'est l'éditrice Sidonie Messin qui porte le projet avec moi et je la remercie déjà à travers ce micro et donc tout ce qui se passe pour l'instant c'est un méga gros kiff. Je terminerai justement là-dessus sur les derniers petits détails heureux de cette préparation mais j'aimerais revenir sur quelque chose qui est la dernière fois que j'ai arrêté mon micro hors série derrière ce podcast, c'était au mois d'octobre, juste avant de partir en retraite d'écriture à nouveau là pour écrire à propos de mon deuxième roman. Et j'avais enregistré dans la foulée ces fameux épisodes qui s'appelaient L'attente. Et j'avais pu déjà vous faire un petit résumé de ce qu'étaient ces premiers mois d'attente, à savoir 4-5 mois, en attendant il y a eu encore plus de mois d'attente, encore, à mon avis, 4 ou 5 mois en plus, donc ça a été long. Et je voulais un peu vous expliquer la suite, parce que j'avais terminé sur une note positive qui était, bah oui, je lâche prise et on verra ce qui adviendra. J'avais beaucoup d'espérance, j'étais remplie de foi, de certitude surtout. Et je rigole, je rigole heureusement maintenant, mais je me suis pris quelques claques de secousses sismiques entre, on va plutôt dire décembre et janvier, février, où j'ai vraiment eu des petits moments, waouh, il faut s'accrocher quoi. J'essaie de faire court, mais je ne sais même pas dans quelle mesure je vais pouvoir résumer tout ce qui s'est passé, tellement les 4 mois qui viennent de s'écouler ont été intenses. Je vais plonger dans le vif du sujet. Je voulais juste vous annoncer aussi quelque chose qui est que je suis assez hyper ok, mais vraiment hyper hyper ok avec le fait de vous partager tout ce qui s'est passé, parce que je pense que ça fait partie de mes missions de coach ou de personne dans l'écriture qui aime transmettre avec d'autres passionnés. Je crois que ça fait partie de mes missions de jouer cette carte de la transparence, de montrer toutes les étapes, de travailler sur toutes les étapes de ce qu'est mettre au monde un projet auquel on tient. Mais je ne vous cache pas que quelques heures avant d'ouvrir mon micro ici, j'étais un peu fébrile, j'étais un peu électrique. Un peu grognon, un peu. Et ça m'a éclaté à la tronche à nouveau. Je me suis dit, mais Hélo, tu vas probablement faire l'épisode solo le plus personnel et le plus intime, mais toujours sans faux semblant, comme à chaque fois, le plus intime des épisodes. Je me suis même dit, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Est-ce que j'ose tout dire? Je tease à mort, là, ça fait déjà 5 minutes que je tease. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est de savoir les derniers mois qui se sont passés ont été me remuer à tout niveau. Et pas qu'au niveau professionnel, pas qu'au niveau juste Héloïse écrit, mais au niveau familial. Je vais commencer par vous raconter tout depuis le point de départ. Mais déjà, sachez que ma mission, c'est de montrer vraiment toutes les facettes, tout ce qui brille et ce qui brille moins parfois dans ce processus de quelqu'un qui a choisi, décidé de vivre une vie créative et de s'y engager. C'est un peu le principe de ce que j'ai envie de vous envoyer aujourd'hui. C'est vraiment à quel point l'écriture, pour moi, c'est devenu un vrai engagement qui implique tout, absolument tout de moi. Heureusement, ça paye. Et c'est ça que je vous enverrai à la fin, c'est que ça paye. Donc, il faut donner tout. Et je l'avais déjà dit dans un autre épisode, donner tout, mais absolument tout, 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 tout. C'est énorme, ça demande tellement de choses chez vous, chez moi, mais c'est. À ce stade-ci de ma petite existence, tout ce que je retiens, c'est tout donner, s'engager. Alors, vous êtes prêtes et prêts, on commence. J'aimerais ouvrir la discussion avec cette fameuse courbe du changement. Je l'amène souvent en coaching et je me suis rappelée et j'ai constaté que je venais à nouveau, moi, de repasser sur une fameuse courbe du changement qui est en fait au départ le déni. Ensuite, la sidération, l'arrêt. Après, je le fais en résumé, il y a la tristesse, la colère, une phase de négociation, de réflexion. Et enfin, quand on remonte vraiment vers une belle étape, un beau changement à nouveau, c'est la mobilisation. Retrouver l'engagement, la mobilisation, l'énergie. Et pour arriver au dernier stade du changement qui est fantastique, qui est la réalisation de soi, la réalisation de qu'on vient de franchir une étape importante dans l'existence. Voilà pour un petit rappel qui fera peut-être du bien à tout le monde et qui peut peut-être aussi vous permettre de réfléchir vous où vous vous situez pour l'instant sur cette courbe du changement. Moi, je sors d'une fameuse lessiveuse, une fameuse lessiveuse qui me rend vraiment hyper bien. C'est pour ça que j'adore faire cet épisode maintenant, dans la mesure où je suis hyper bien, hyper ancrée à nouveau, hyper confiante. Donc, comment je passe de fin octobre, je quitte ma retraite d'écriture à la mer en Belgique, à aujourd'hui, au mois de juin, il fait méga chaud, il fait même 30 degrés, et comment j'arrive à pouvoir vous dire enfin, voilà, ce livre, ce processus abouti, ce livre va être publié. Eh bien, pour faire un petit résumé, une petite machine en arrière, en quittant la retraite d'écriture, je m'étais quand même posé la question de savoir comment je prends soin de moi pour l'instant. Comment je prends soin de moi dans la mesure où je sais que c'est un moment où je dois attendre beaucoup de choses de la vie et qu'est-ce que j'en attends. Et donc à ce moment-là, j'avais tiré quelques cartes. Je sais que ça va en faire sourire certains et certaines et d'autres vont dire « Mais oui, tire les cartes !» J'avais tiré quelques cartes avec cette question qui était bah, cette retraite qui est en train de se passer, qui est en train de se terminer, où est-ce qu'elle va m'amener? C'était peut-être un peu avant. Ah oui, c'était juste un peu avant. Je crois que c'était le dimanche avant de partir en retraite, au mois d'octobre. J'étais un peu pressée, je devais faire les bagages, j'avais une fête familiale, etc. avant que je prenne le train pour le lundi aller à la mer. Mais je m'étais quand même posée à 23h pour tirer les cartes et j'avais posé la question quelle nouvelle, quelle chose, quel changement va m'amener, vont m'amener ces jours de retraite. Et là, j'avais reçu comme trio de cartes un message et ensuite des bonnes nouvelles et enfin une issue heureuse. Et j'ai replongé dans mon carnet d'écriture intime et ça m'a fait waouh de me rendre compte que ce truc, un message, deux bonnes nouvelles, une issue heureuse était déjà posé. Parce que maintenant je suis dedans et je vois vraiment les bonnes nouvelles. J'ai vu le message, j'ai vu l'issue heureuse, mais à ce moment-là, j'étais pas du tout en train de me rendre compte de leur portée réelle. Qu'est-ce que ça signifiait? Eh bien, ça signifie que quelques jours, peut-être même quelques semaines avant que je parte en retraite, si Denis, des éditions Academia, m'avait envoyé un mail en me disant « Regarde un petit peu, il y a un appel à texte dans notre maison d'édition. » voilà, un appel à texte pour un futur speed dating où on pourra se rencontrer avec des plumes et des auteurs et des autrices et que chacun pourra défendre son projet. Donc je vois un petit peu ce qui se passe et je lui réponds « Super, je transmets ça à mes plumes, je vais relayer ça sur mes réseaux. » Et là, Sidonie me dit « Mais non, moi je te suis sur les réseaux, on se connaît un tout petit peu, mais il y a très longtemps. » Et bon, ça c'est un détail sympathique, mais qui n'a pas trop influencé non plus, je crois, quoique. Elle me dit, mais non, moi je te suis, je sais que t'as écrit un livre, envoie ton manuscrit. Déjà, je rigole, parce qu'à chaque fois, ça manifeste que chaque fois, je pense aux plumes. je pense aux plumes, je pense à vous, et je me dis, ça peut servir à quelqu'un. Mais comme une grosse teubée, je ne me dis pas, mais évidemment, envoie ton texte. Donc, je dis, ah, mais oui, c'est vrai, pourquoi pas. Et ça m'a vraiment permis de faire un shifting qui était, pour l'instant, j'attendais des réponses de maison d'édition de Paris, de France, qui était mon étape rêvée de malade. Et là, je me dis, bah, ça fait plusieurs mois, j'attends, j'arrive presque à la deadline de toutes les maisons d'édition parisiennes. Et quand c'est comme ça, je fais pause et je me dis, bah, à quoi ça m'engage? Je ne sais pas, mais quelque chose vient à moi. Et là, je me dis, quelque chose vient à moi. Un message qui est ouvert en moi depuis 5 ans, depuis que je suis indépendante, c'est quelque chose vient à toi et regarde-toi, pose-toi 2 secondes et regarde un petit peu ce que ça signifie. Et souvent, quand ça vient à toi, c'est que c'est juste, ça se déroule, il y a un tapis qui se déroule, à toi de voir si tu t'engages dedans ou pas, mais il y a quelque chose. Donc je réponds à Sidonie, je lui dis merci. J'ai quand même bien évidemment relayé l'appel à texte à toutes les plumes que je connais, mais je me suis dit, Laïlo, il faut que tu fasses quelque chose. Ok, puis il se passe rien, je reprends ma routine, je travaille. Et la deadline pour envoyer les textes pour un futur speed dating, c'était le lundi où je prenais le train pour aller à la mer. En retraite. Et bah, comme je vous dis, tout s'est précipité, fête de famille, bagages, gérer tout, être sûr que les enfants, mon mari, tout soit hyper ok. Ma valise est prête méga méga tard. Donc je monte dans le train et je me rends compte que j'ai 9h, 10h du mat et j'ai un flip. Je me dis, punaise, Hélo, t'as oublié d'envoyer ton texte, ton dossier de candidature à Academia. T'es vraiment une foireuse. Et je suis en train de me dire, bah t'es foireuse. Après, je me dis, moi, je suis fort à cheval sur les règles. Je me dis, bah, c'était hier minuit, tu devais l'envoyer. T'as oublié. Bah, tu t'en prends qu'à toi-même. Et là, je me suis vraiment dit, mais tu t'auto-sabotes ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de t'auto-saboter. On t'envoie une invitation sur un plateau d'argent. On te dit, je suis ton projet, envoie le texte et t'as oublié. Donc, je lâche prise. Qu'est-ce que je peux faire à ce stade-là? Je me dis, bah, écoute, c'est que c'est pas ça. C'est que À la limite, on va un petit peu bosser sur ce point, est-ce que tu t'auto-sabotes ou pas, on prendra le temps d'analyser, mais en tout cas, je suis dans le train, je suis en partance pour ma retraite où j'écris mon roman numéro 2, bah voilà, let it go, quoi, c'est pas, c'est grave, enfin, je suis pas contente sur moi, mais c'est pas la fin du monde non plus. J'arrive à la mer, je prends possession de l'appartement, tout ça, et j'ouvre mes mails. Ce que je ne devrais pas faire, vu que je suis en retraite, mais je le fais quand même. Et je vois que Sidonie me dit « Ah, au fait, envoie ton texte, il est encore temps, envoie-le, quoi. » Donc je me dis « Bah, ok, c'était pour hier minuit, mais on me demande de l'envoyer. » Donc deuxième chance. Waouh, là, si je me dis « On n'est pas en train vraiment d'amener quelque chose à toi », c'est dingue, quoi. Donc là, je me suis dit « Ok, tu es en retraite d'écriture, tu es censé faire ton deuxième projet, mais tu prends une demi-journée pour potasser le dossier, préparer des extraits de texte, créer un petit résumé, un petit synopsis, un petit CV littéraire. » Et donc, j'ai passé les premières heures de ma retraite d'écriture à préparer ce dossier. Et donc, je l'ai envoyé. C'était très drôle parce qu'en fait, je vois les cartes, un message. Ben, Sidonie m'envoie un message en me disant « Mais quoi, qu'est-ce que tu fais? Envoie-le. » Donc, merci Sidonie, mais je crois que je vais le dire 1000 fois dans l'histoire. Merci Sidonie parce que je l'ai envoyé. En sachant que là, j'étais encore un peu à cheval. Je me dis « Ouais, mais j'ai quand même encore une ou deux chances avec d'autres maisons d'édition en France. » Et en même temps, il y a une sorte de volet qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre. Qui est, mais là, t'avais un plan qui était ton plan de rêve, un plan où, comme d'hab, j'ai tout pensé, j'ai tout préparé, j'ai tout. Mais donc là, je suis dans l'hyper contrôle surtout, et je me dis, mais c'est peut-être pas censé se passer comme ça. Ce serait trop bizarre, même trop, je sais pas, trop présomptueux de penser que ton plan à toi que t'as décidé il y a quelques mois. Tu le mets en place et il va se passer exactement ce que tu voulais qu'il se passe. L'histoire l'a démontré en plus que c'est vraiment pas du tout comme ça que c'est censé se passer. Mais toujours est-il que là, je me suis dit, bah, écoute, on le fait, on verra. Yalla, quoi. Et je l'ai fait. Et en plus, j'étais dans l'instant même en train de me dire, c'est cool parce que j'ai dû relire, j'ai dû sélectionner des extraits du livre. Il fallait choisir des extraits assez parlants. C'est un peu comme si on faisait un petit échantillon de quelques pages des meilleures essences et saveurs du livre. Et là, je me suis dit, mais c'est fou parce que ce livre, je l'ai relu, retravaillé, ce manuscrit. J'en étais dégoûtée à un point où je ne l'ai plus ouvert depuis des mois. Et d'être retournée dedans, d'avoir choisi des extraits, ben, ça m'a fait un petit quelque chose qui était, waouh, je suis vraiment contente de relire ça parce que j'aime bien, j'aime toujours bien. Et je me dis, ben, ça me fait plaisir de me repencher dessus. Donc, je l'envoie, c'est fait. J'en profite pour envoyer un petit message à Marie Meurice, une bonne amie, à Caroline Deharan, et je leur dis, bah, écoutez, je sais pas, je le fais, je l'ai fait, je sais pas trop, je repartage un peu mon hésitation, et Marie me répond, mais écoute, c'est peut-être ça l'idée, c'est intéressant ce qui se passe. C'est peut-être une voie un peu plus classique et un peu plus progressive d'une autrice qui est bah, d'abord d'être repérée en Belgique, d'être éditée en Belgique, et puis d'avoir cette possibilité d'évoluer, etc. Il s'est opéré un premier shifting, un premier revirement dans mon état d'esprit qui est oui, j'ai vécu une sorte de petit rêve éveillé en allant à Paris, en allant voir toutes les maisons d'édition, en déposant ça, en y croyant vraiment dans l'instant à fond. Et en même temps de me dire, ce truc prend vraiment du temps, comment ça prend du temps, et il y a plein de scénarios possibles. Et oui, t'es juste une nobody pour l'instant. T'écris, ok, mais t'as rien publié. Donc, ça m'a donné une petite façon, ça m'a amené une petite façon de voir les choses qui est super humble et qui était super juste, de me dire, ben, en fait, oui, ça peut être une voie. Mais ça restait en ça peut, en sachant que tout n'était pas encore totalement réglé du côté de Paris. Donc, voilà. Et j'y repense maintenant, c'est ce que Benoît Coppée m'avait conseillé aussi au départ, il y a un an, quand je préparais mon manuscrit pour aller à Paris. On avait une super discussion, de super bons coachings, toujours des super conseils précieux avec Benoît, et qui m'avait quand même partagé ça. Il me dit, écoute, moi, mon conseil, il a beaucoup d'expérience, il me disait, mais n'oublie pas les maisons belges, quoi. Pense aux maisons belges, il y a plein d'élan, il y a plein d'envie, il se passe plein de choses intéressantes. avec des éditeurs, des éditrices qui ont envie de bosser aussi avec des super auteurs. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il avait appuyé. Et là, à ce moment-là, un an avant, moi j'étais vraiment bélier, focus, moi je tente le tout pour le tout, je vais à Paris, c'était mon premier objectif. Maintenant, c'est drôle de voir que voilà, il y avait une sorte de voie de la sagesse là aussi. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête et je suis très contente de l'avoir fait. Dans la mesure où l'histoire de Paris était dingue. Je reviendrai dessus et je reviendrai sur tout ce qu'elle m'a appris, tout ce qu'elle a débloqué en moi aussi, dans des blocages inconscients qui étaient peut-être encore présents. Donc voilà, je suis prête à envoyer mon dossier, tout est fait, enter, je relis des passages et je me dis, j'y crois toujours. Vraiment, je suis contente et je suis fière de défendre encore ce projet. Je fais ma petite retraite. Et je souris parce que je relis un carnet des pages que j'avais écrites en octobre dans tout ce qui est plutôt intime et j'avais mis je souris car je vois que je suis capable de suivre le flow, de comprendre et d'intégrer que cette nouvelle opportunité est une étape en plus sur un chemin qui me mène là où je dois aller. Je ne sais pas où, mais j'observe la mécanique, chaque petite chose qui se déplace, chaque petit endroit qui me dit je travaille 50-50, moi et l'univers. Ça fait rire parce que parfois je relis des pages d'il y a quelques mois et je me dis, mais j'avais déjà une forme, je sais pas, je me rendais compte de ça et après je me rends compte que je fais quand même rien à voir et je repasse par des stress, des angoisses alors que là j'étais super claire, c'est une super étape et la mécanique est en route quoi. Je fais ma part, une opportunité arrive, quelque chose vient de l'extérieur, j'y réponds et je garde aussi confiance dans ce qui peut se dérouler par la suite. Bref. À ce moment-là, je termine ma retraite, je rentre chez moi. Et là, déjà, ça commence un petit peu à être ambivalent. C'est que j'ai un sentiment que j'ai pas fait ma retraite à 100% comme je voulais. Mais c'est normal parce que je me rends compte que je voulais travailler sur un deuxième projet, mais que le premier n'est pas complètement fermé dans ma tête. Et j'ai noté cette ambivalence de me dire, mais j'étais pas focus à 100%. Déjà, j'ai pas beaucoup écrit comme je le souhaitais sur le deuxième roman, parce que j'étais focus sur le premier, j'ai pris un jour pour remplir les dossiers et tout. Donc j'avais une sorte de petit vague à l'âme, pas durant la retraite, parce que Karine, mon amie Karine est venue me rejoindre, on a encore bien écrit, on a encore bien avancé, j'ai pu lui partager les premières feuilles remuantes du deuxième roman, c'était gai, rien que pour ça. Mais. Quelques jours après, je sais pas, 2 3 semaines après, en rentrant, j'étais un peu un petit spleen, quoi, quelque chose, parce que je me rendais compte que là, fin octobre arrivait et que là, ça signifiait qu'il n'y avait plus vraiment de chance par rapport à Paris, par rapport aux fameuses dates de réponse, de délai de réponse des maisons d'édition. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir le valider, c'est ok. Ben, toutes tes deadlines de Paris, là, elles sont en train de tomber. Donc, il restait une piste par rapport à une éditrice, mais qui finalement s'est retrouvée dans une impasse aussi. Donc, à un moment donné, il faut juste acter et se dire qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire que fin octobre, au milieu de ce spleen, je me suis quand même dit, mais cocotte, ok, t'es dans le spleen de se dire tout ce que t'as porté pendant des mois. Arrive à zéro, et d'un côté, cette fameuse chose vient de s'ouvrir du côté de la Belgique. On continue, quoi, on continue. La seule chose que je veux, moi, c'est que le livre soit lu, en fait. T'as ton plan idéal, et je pense à Élodie Christophe, une autrice qui m'avait dit, bah, au moment où j'allais à Paris, qui m'avait dit, mais c'est génial, parce que tu vas à Paris, en fait, c'est viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Donc, ça, c'est une phrase qui m'avait marquée, à savoir, évidemment, tente le tout pour le tout, va à Paris. Mais de toute façon, comme elle me l'envoyait avec amitié, c'est pour atterrir dans les étoiles. Donc les étoiles, on y est. C'est la Belgique et c'est Academia, qui est une chouette maison d'édition. Mais sur le moment, il faut être honnête, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Il faut se dire, ok, je suis bougée, j'ai envoyé plein de dossiers, manuscrits, je suis allée le déposer en main propre. J'ai vécu une belle aventure, mais ça a aussi été beaucoup de réflexion et d'attente. Et là, j'entre dans une nouvelle phase d'attente avec encore moins de clés qui me dit vraiment dans quelle direction aller. La seule que j'ai, c'est Academia avec Sidonie Messin qui m'invite à aller à ce speed dating. Après, ça s'enchaîne vite parce que début novembre, je reçois un mail qui me dit super le dossier, un mail de Sidonie, le dossier est top, on a vraiment envie de te rencontrer, viens au speed dating et donc tu auras 15 minutes. 15 minutes 4 minutes par personne, donc 14, ça fait 16 minutes pour défendre ton projet. Donc là, évidemment, je suis à nouveau gonflée à bloc, hyper motivée, et je travaille ça comme si je préparais mon oral en blocus. Et là, je suis à nouveau hyper, hyper motivée. Entre-temps, dans mes carnets intimes, j'ai pu relire 2-3 pages, et il y a quelque chose qui était grand et qui a été écrit et manifesté, c'est je suis autrice, et il est vraiment temps que je... Non plus que je le vive dans ma tête, mais je le vive vraiment dans tout, quoi. Dans ma vie de femme, dans ma vie avec mon travail, qui est le mot qui délivre, que je le ressente et que je l'incarne. Et donc, il est temps que ce soit acté. Et je trouve que le premier pas qui a été fait, d'acter que je suis vraiment autrice et que c'est quelque chose, c'est un chemin dans lequel je souhaite sérieusement m'engager, c'est d'aller faire ce speed dating. À ce moment-là, il y a de l'espoir, donc c'est cool. Et je me rends chez Academia pour le défendre. Donc je rencontre une libraire qui a travaillé pendant des années. Je rencontre différents membres d'un comité de lecture, qui est le comité de lecture de la collection Évasion. Et je dois présenter mon bouquin en sachant, quand j'y vais, j'ai une petite intuition qui me dit « Ok, collection Évasion ». Je joue le jeu à fond parce qu'on est venu me chercher pour cet endroit-là. Mais une petite intuition qui me dit évasion, c'est beau, mais la femme seule, ok, il y a des voyages à l'étranger, il y a des zones et des paysages, des paysans exotiques, mais la femme seule, je pense que tout est dans le titre. C'est pas spécialement évasion, feel good, nécessairement. Mais je joue le jeu à fond, j'y vais à fond. Si bien que quand je reçois une semaine après un oui, envoie-nous ton manuscrit complet, on a envie de le lire. Et suite à ça, on te donnera la réponse si oui ou non il est édité. J'y vais. Je l'envoie. Donc, mi-novembre, j'envoie mon manuscrit complet en me disant « Ça y est, là, les éditrices et le comité de lecture vont le lire en entier. » Et ce sera oui ou non. Donc, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir franchi toutes les étapes et de me dire « C'est la dernière étape. Après, c'est oui ou c'est non. » Donc là, au niveau de l'attente, il y a une sorte de deadline qui se précise. Et cette deadline, c'était début janvier. Donc on laisse le temps au comité de lecture de lire les 200 pages Word du manuscrit, parmi d'autres manuscrits qui ont été retenus. Ça fait beaucoup de lectures, et donc de mi-novembre, ben je sais que je peux un peu me relâcher et attendre début janvier pour avoir une réponse. Mais là, je suis OK, je lâche prise en sachant que début janvier, j'ai une réponse. Donc je me dis, ben OK, c'est une attente décisive. Mais c'est la dernière étape, quoi. C'est la dernière étape, donc je lâche prise. Ça, c'est toujours la théorie. Mais surtout, j'ai lâché prise pour beaucoup de choses avant, et à un moment donné, ça devient même long de pratiquer cette discipline. Je suis pas une sainte, je suis pas une bouddhiste, de lâcher prise à tous les niveaux. Surtout que j'ai croisé une amie il y a pas longtemps, on a été boire un café dans un brunch café, et elle me dit « Ah, j'ai écouté ton dernier épisode, celui sur l'attente », donc le précédent, elle me dit « Ah, c'est génial, parce que je trouvais que t'étais zen et que t'attendais vraiment avec une philosophie cool de lâcher prise », et là, elle me le dit il y a quelques jours, donc je sais pas, début juin, et je me mets à rire, parce que je dis « Attends, tu vas voir le prochain épisode, lâcher prise mon cul, quoi, désolée, mais... » Ça a vraiment été... Et en même temps, c'est vraiment ça à nouveau. Donc, ce qui se passe, c'est que j'attends. Donc, ma vie se déroule. On arrive en novembre, je vous le dis. J'ai envoyé le manuscrit, je suis contente. Vu que je sens encore cette ambivalence de... À la fois, j'y crois à fond et en même temps... je sais pas, il y a un truc latent en moi qui commence à chipoter. Je le dis une fois à Karine, qui me connaît très bien, on discute, on se fait des restos, etc. Et elle me dit, mais je sais pas comment tu tiens et tout, c'est long maintenant, ça fait plusieurs mois. Et je dis, écoute, oui, là, je pense que la première chose que j'ai validée de manière consciente, j'ai dit, oui, ça devient long. Ça devient long, je sens que je suis testée. Je vous dis ça, on est en novembre. Hein. Et ben là, punaise, je ne savais pas à quel point j'allais être testée, parce que j'ai été testée jusqu'en avril. Hein. Je vous continue l'histoire. Donc, je me dis, écoute, novembre, je travaille, je suis super contente, je suis hyper investie dans tout ce qui est coaching, accompagnement, je fais tous mes ateliers de bibliothérapie, je donne une formation, je fais plein de trucs cool, je suis à fond dans le travail. Et j'en profite pour me dire, je vais refaire un petit travail encore sur moi, je vais aller refaire une petite constellation familiale, je vais retravailler encore un petit peu au niveau énergétique pour vraiment être au clair avec moi-même. Et au clair, c'est on continue, c'est ça que tu veux faire, tu veux écrire toute ta vie, ouais, ok, on continue. Donc a priori ça va. Au niveau niveau personnel, il se passe un petit truc qui est que un soir, à la maison, donc j'ai deux enfants, un petit garçon de 6 ans et un petit garçon de 4 ans, et je suis en couple. C'est une journée typique qui est, je sais pas, un lundi, un mardi soir, l'heure du souper, tout le monde est à table. Et j'ai mon grand garçon qui fait une crise de colère. Et il y a quelque chose en moi qui, je sais pas, en fait je suis à table et je me mets à pleurer. Et je dis à mon mari, je ne sais pas, ça ne va pas, c'est trop quoi. Et donc on est à table, mon enfant se calme, mon mari me dit écoute, pas de soucis, je les mets au lit, détends-toi. Et je le revois remonter à l'étage, emmener les enfants, les mettre au lit. Il y a quelque chose qui craque vraiment en moi. Et c'est là que j'ouvre quelque chose qui est un peu plus personnel. Mais tout s'est fait de manière concomitante, l'attente du livre. Développer, bousculer les lignes pour que ma vie d'écrivaine se manifeste concrètement. Et en même temps, à côté de ça, je suis mobilisée depuis pas mal de temps par rapport à une question familiale qui est que mon grand garçon, on l'a découvert maintenant, on a une validation. Mon garçon de 6 ans est dans le trouble du spectre de l'autisme. Je ne sais pas comment on va le dire, si c'est léger, en tout cas sans déficience intellectuelle. C'est un petit bonhomme qu'on pourrait le voir à l'école, à une soirée, à un barbecue. La plupart des gens pourraient se dire que bah oui, c'est un petit bonhomme, tout ce qu'il y a de plus normal, ok, il est sensible, il est frustré parfois, etc. Mais depuis qu'il a 3 ans et demi, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait ordinaires. Et donc ça fait 3 ans que, en tant que maman, sur le côté de mon job d'écrivaine, mon job de coach, d'accompagnatrice, etc., de femme indépendante, il y a quelque chose que je vis dans l'intime, dans le familial, mais que je ne partage pas voilà, dans la sphère du travail, qui est que, en fait, je me rends compte ce soir-là où ça craque, c'est que je suis à la fois hyper mobilisée par le projet d'écriture, qui est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est tellement moi et qui je suis. C'est mon projet privé, perso, égoïste, tout ce qu'on veut. Et à côté de ça, là j'ai un flash en revenant de retraite et dans l'attente du manuscrit chez Academia qui est mais comment je vais faire? Parce qu'en même temps, j'ai mon enfant qui manifeste encore des signes qu'on a besoin de patience, on a besoin d'énergie pour l'accompagner. Je dois être là, quoi. Je dois être là et là, ça me questionne pour la suite. Et je sais que je dois à la fois être présente pour être une bonne mère qui accompagne, qui est patiente, qui a l'écoute, qui va aussi entamer un chemin d'accompagnement pour cet enfant, bah vivre de manière la plus épanouie possible, ce qui est le cas. C'est un super bonhomme, il va très très bien. Mais là, il y a un truc qui me dit « c'est beaucoup » et je craque nerveusement. C'était vraiment nerveux. Et voilà, je me retrouve toute seule en bas, à table, la table qui n'est pas vidée. Et je me rends compte que là, il y a quelque chose qui est énorme, qui vient de sauter et je me vois pas bien. Je vous dis, je pleure, mais bon, ça, je pleure souvent. Je vous l'ai déjà dit, je suis hyper sensible. Mais là, je dis, allez, franchement, c'est comme si je parlais quelque chose là-haut, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas en train de faire des prières d'habitude, mais je dis, là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir une réponse positive pour le livre parce que je me rends compte que j'accompagne, et tout se passe dans la même soirée, je me rends compte que j'accompagne tout le monde, j'accompagne plein de gens, je donne le meilleur de moi-même, j'ai l'impression d'arroser plein de petites graines, plein de projets avec des gens, je les encourage, je porte, j'arrose du mieux que je peux mes enfants, ma famille, mon couple, je me dis, là, j'ai l'impression de ne pas demander grand-chose d'habitude, mais là, je me suis dit, je ne sais pas à qui je vais m'adresser, mais ce truc, je le veux, j'en ai besoin. J'ai besoin de ça pour moi, ce truc-là, juste pour moi. Je veux que ce livre puisse être dans les mains des gens, puisse être lu. Je veux recevoir ce signal que je ne me trompe pas, quoi, que je suis là-dedans, l'écriture. Donc c'est un moment assez sensible et qui a planté un peu les jalons de la suite, qui est que il se passe beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là. Et ce n'est pas anodin. Les choses arrivent toujours ensemble. Et comme dit mon père, tout ce qui est un peu compliqué arrive ensemble et en même temps, tout ce qui est merveilleux arrive ensemble. Et ça, c'est un adage qui s'est déjà vérifié plein de fois dans ma vie et là encore une fois. Donc voilà, octobre-novembre, c'est l'attente à nouveau jusqu'à décembre, janvier, de me dire, mais waouh, il va falloir être patiente, il va falloir continuer d'y croire et tout doucement je fatigue quoi, je perds un petit peu cette zen attitude que je peux cultiver la plupart du temps, même en lisant, même en écrivant, etc. Donc ce qui se passe c'est que je me rends compte effectivement que ça devient un peu dur, donc nous on entame encore du côté privé voilà, tout un accompagnement pour notre garçon, pour avoir vraiment ce diagnostic, ce truc que je sens au fond de moi. Je dis, c'est mon enfant, il est comme ça, j'en suis sûre. Je suis pas médecin, je suis pas psy, mais il se passe quelque chose. Et en même temps, mon livre, j'en suis sûre, il va être publié. Donc j'ai deux intuitions qui sont très fortes. Je sais, je soupçonne fortement ce qui se passe avec mon enfant et j'ai besoin d'une validation, j'ai besoin d'un diagnostic. Donc on s'engage là-dedans avec mon compagnon. Et d'un côté, j'ai besoin de savoir si mon livre, c'est bon parce que j'y crois. On arrive en décembre et là ça bascule dans une période qui est vraiment sensible. Déjà je chope le Covid, je tombe malade, je suis affaiblie physiquement, moralement. Et il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas si vous adhérez à ça, mais quand votre corps, votre énergie, votre système émotionnel ou mental est affaibli, bah, j'ai l'impression que souvent c'est le corps qui vient du coup choper tout ce qu'il faut. Et je me targuais de peut-être jamais avoir chopé le Covid, c'est ridicule. Mais là je l'ai chopé et je l'ai chopé bah, par le biais du travail de mon mari. Et on était tous malades. Et mais mes enfants sont remis assez vite. Mon mari en 24 heures s'était plié, 36 heures. Et là moi, toute une semaine, c'est waouh! J'ai eu l'impression que j'étais allongée sur un lit et c'est comme s'il y avait des sangsues qui venaient tirer toute mon énergie. Je sentais comme si on aspirait, quelque chose aspirait, attirait, vidait tout ce qu'il y avait en moi d'énergie vitale. C'est assez radical, mais je l'ai vraiment senti comme ça. Donc ça a été une semaine catastrophe. Je me sentais vraiment pas bien et là j'ai lâché tout. J'ai dit ok, t'oublies tout, t'oublies, tu te laisses. Tu te laisses porter, c'est mon mec qui m'a nourri, c'est mon mec qui a tout géré avec les enfants. Une semaine, en fait, c'est comme si j'existais pas, c'est comme si j'étais pas là. J'étais dans une chambre, j'étais dans un lit, et par contre, j'ai eu l'occasion d'être en spirale dans ma tête, mais si vous avez eu le Covid ou une grosse grippe ou quoi, vous pouvez savoir que c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, je me suis dit, bah, ok, lâche tout. Donc j'ai glandé, j'ai commencé à regarder des séries, n'importe quoi. Si je vous disais ce que j'ai regardé, franchement. Mais j'ai dormi des sommeils sans rêve, des sommeils agités. Il s'est passé un truc, je me suis dit, hello là, en sortant de ce bazar-là. Il n'y a pas de hasard. Tu as eu quelques intuitions avant, que tu étais en train de t'affaiblir, que moralement ça devenait long, que ce soit au niveau familial, au niveau du livre. Il se passe quelque chose. Et ce qui est beau, c'est que j'ai quand même noté des choses dans mon carnet quand ça commençait à aller mieux, l'avant-dernier jour où j'étais malade. J'ai noté qu'il faut vraiment lâcher parce que là, tout ce que je dois faire, c'est oublier mon livre, oublier le travail, oublier mes responsabilités. Je dois juste accepter que mon homme prend soin de moi, que je peux me reposer sur lui et que, en fait, il est là, il me soutient. Donc, vous voyez, le petit raccourci que je vais faire, c'est un moment méga dark. Le petit côté, à chaque fois, je me dis. Maintenant, avec les choses de la vie, je me dis, quand il y a un moment super dark ou un truc vraiment pas cool, je me dis, où est le cadeau? Où est le cadeau? Et c'est malgré tout, c'est une discipline que j'ai pu quand même garder durant tout le processus jusqu'à au feu vert de l'édition de mon livre. C'est quand il se passe quelque chose, où est le cadeau? Et là, le cadeau, c'est que j'ai pu me rappeler, et ça, c'était bien, que je peux vraiment me reposer sur mon conjoint. Donc ça, c'est fantastique. Après, bah, je me soigne, on est au mois du courant mois janvier, décembre, avant Noël, et c'est la première fois que ça m'est arrivé, en 5 ans. Je vais animer un cercle d'écriture en soirée avec des nanas. Franchement, je vous dis, si je vais à ce cercle d'écriture, c'est comme la maison. C'est comme si j'arrivais chez moi, chez Slona, mais chez moi, une excroissance de ma maison, une excroissance de ma famille. J'arrive avec des plumes, des femmes qui me connaissent, on se connaît toutes super bien, on dépose des trucs, donc en fait, on est en mode. Transparence totale, soutien total, et là je me dis, hello, qu'est-ce que tu fous là quoi? Et ça n'a absolument rien à voir avec ces autrices et ces femmes merveilleuses, ça n'a rien à voir avec tous les moments hauts et bas, mais forts et porteurs et de sororité qu'on a déjà pu vivre. C'est juste que je sens que ma place n'est pas là, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le cœur à y être. Je me dis, je veux juste être chez moi, je veux mettre mes enfants au lit, je veux leur faire des grosses papouilles et je veux aller me coucher. Ou écrire pour moi. J'ai envie d'écrire mon livre alors. Enfin voilà, il y a un truc qui est une sorte de repli personnel, mais que je n'ai pas fait. Je suis allée le faire, je l'ai animé. Et heureusement, sur place, il se passe évidemment des choses sympas. Mais ça m'a traversé. Qu'est-ce que tu fous là? Et là, vous voyez plein de petits cailloux. Je vous dis souvent les cailloux blancs, des choses positives qui se mettent en route pour vous montrer le chemin de la réussite ou de l'aboutissement d'un rêve ou d'un projet. Mais là, c'était des petits cailloux plutôt gris. Le Covid, avant ça, le moment down avec mon fils à table. Ensuite, et là je me dis waouh, et là je suis en train de me dire il se passe quelque chose, il va falloir s'arrêter et réfléchir. Heureusement, les vacances de Noël arrivent, je prends 2 semaines complètes pour être en présence familiale, aussi me remettre à zéro, quoi, un bon reset. Et pendant ce temps-là, je vais boire un thé chez Bergamote, un bon thé à l'anglaise avec Karine. On papote de tout, de rien, donc on arrive à parler du livre, on arrive à parler de mon état d'esprit. Et vu que c'est une excellente amie, je m'ouvre enfin un peu et elle me dit, mais moi je vois que tu pépilles, tu manges rien. C'est bizarre, quoi. C'est la première fois que je te vois comme ça. Et là, je me rends compte que, ok, on va passer des vacances, cocoon, on prend soin de soi. Tu auras ta réponse pour ton livre début janvier. Donc il te reste à tout casser une grosse semaine, 10 jours. Accroche-toi, accroche-toi. Début janvier, tu sais ce qui se passe. Donc. Lâche prise, fais la fête, profites-en. Mais voilà, encore une petite remarque de quelqu'un qui me connaît bien, qui dit, oh, t'es pas comme d'hab, quoi. Et ça fait 3-4 cailloux gris, je me dis, je suis pas comme d'hab. Et je me dis, waouh, au niveau mental, là, il faut vraiment que je m'accroche par rapport à ce projet et par rapport à ce que 2023 pourrait m'apporter. Et le 23 décembre, c'était la nouvelle lune, et... Je me suis amusée encore à faire un petit rituel d'écriture, à tirer les cartes, à avoir un petit moment en tête à tête avec moi-même. Et c'est fou parce que même dans ces moments avec les petits cailloux gris qui sont en train de s'ajouter en mode qu'est-ce qui se passe là? T'es en train d'être en spirale tout doucement, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui coince comme un caillou dans la chaussure qui t'empêche d'avancer. Et là, j'ai quand même noté, j'y crois, je suis en train d'y arriver, j'ai œuvré pour, j'ai confiance. Et là, je me dis waouh, donc je commence à être dans un moment un peu pas top. Et c'est marrant parce que en retraçant les moments d'écriture dans mes carnets intimes, je me remarque qu'à chaque fois, il y a un petit moment où je m'accroche quand même. Alors que je sens que ça devient difficile et je m'accroche quand même. Et je voulais vous le dire parce que ça, je vous l'envoie comme une coach. Il y a des moments où il faut s'accrocher. Je viens vraiment de les vivre personnellement pendant ces derniers mois. Et j'espère que quand je pourrai accompagner vos projets par la suite, c'est ce que je fais encore depuis ici ces dernières semaines, ces derniers mois. J'espère que quand je vous l'envoie, vous me croyez, parce que vraiment, accrochez-vous, quoi. Et voilà, je pense à Karine qui m'entoure, je pense à mon amoureux qui est là, qui me soutenait et qui continue de le faire. C'est chaud des vrais projets, des vrais rêves qui prennent du temps et de la longueur. C'est chaud, mais en fait, en faisant le petit bilan avec vous, je me rends compte qu'il y a des gens à qui on peut se confier, qui peuvent porter un peu pour nous aussi. Donc, il faut leur faire confiance aussi. Et franchement, venant de juin, moi qui suis toujours en train de tirer un peu tout le monde, c'est dans ma nature de porter, d'encourager les autres à tous les niveaux. Ça a été une petite leçon d'humilité de me dire, mais toi aussi, tu peux demander l'aide, tu peux te confier, etc. Voilà, on arrive début janvier. Nouvel an, super nouvel an. J'ai quand même bien dansé, j'ai bien bu. Voilà, il faut des moments aussi de fête pour se déconnecter, décompresser totalement. Mais voilà, quand on dit début janvier, moi le 1er janvier, je suis au taquet. Je veux ouvrir ma boîte mail, je veux une réponse. Et là, on le savait, on dit lâcher prise et tout, mais je peux vous dire que tous les jours, depuis le 1er janvier, j'ouvre ma boîte mail, je ne sais pas combien de fois, je veux le mail d'Academia. Je veux savoir si le comité de lecture a validé, oui ou non, mon manuscrit, est-ce qu'il est édité? Alors là, ça devient drôle parce que début janvier, finalement, les jours s'accumulent et après le 15 janvier, bah, pas de mail. Donc je me dis, c'est pas grave, c'est la reprise. Et en même temps, j'ai besoin de savoir, j'en peux plus. Je suis en train de me traîner comme une vieille carcasse. Je vais arriver desséchée comme dans un désert en bout de course de cette histoire. Et bah, j'arrive à en rire parce que franchement, c'est dingue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah quand je reçois la réponse, j'attends un mail et là ce que je vois, bah c'est... J'attends quelque chose qui va déceler, déverrouiller mon chemin dans l'écriture, quoi, dans l'écriture belge. Je l'attends, j'espère, quoi. J'y mets beaucoup d'espoir. Entre-temps, parce que je vous dis le 15 janvier, j'ai toujours pas de réponse, j'avais prévu depuis quelques semaines un rendez-vous où j'interviewais Lisette Lombé dans mon podcast ici. Et c'est fantastique parce qu'on a passé un moment, plusieurs heures ensemble. Et il y a quelque chose dans ce qu'elle disait dans l'interview, j'ai l'impression que je le prenais personnellement. Je me suis souvenu de son chemin, je me suis rappelé la première des maisons d'édition qu'il a publiée. C'est une maison d'édition au Erich Edition, dans le Luxembourg, dans une province luxembourgeoise. Elle est passée ensuite chez Maelstrom, et puis je la vois passer maintenant chez Iconopop pour la poésie, et puis je la vois passer maintenant au Seuil et chez... Voilà. Je l'ai vue, on a discuté, et en fait, je me suis retrouvée en miroir-miroir avec une nana qui écrit et qui fait du mieux qu'elle peut, et qui est parfois aussi dans le doute, qui est parfois dans un désert aussi artistique, avec des questionnements, avec des moments de... aussi avec une année, si vous aviez vu à ce moment-là ce qu'elle m'annonçait pour 2023, je lui mets son année, elle est magique, elle est fantastique. Et toute la discussion que j'ai eue avec elle, surtout qu'elle a envoyé généreusement, c'est un long chemin. Et c'est un chemin où chaque étape, c'est jamais gagné. Et à part s'accrocher, avoir confiance, assumer ses ambivalences, enfin aller réécouter le podcast, vous allez voir tout ce qu'elle dit. Rappelez-vous, quand elle le disait, j'étais en train de prendre tout au niveau personnel aussi, comme si j'écoutais le podcast comme une plume chez elle. Et ça m'a fait un bien fou. Je pense qu'elle a été un pansement, elle a été un filtre de sérénité pendant quelques heures qui m'ont donné confiance et envie d'y aller. Quand je lui explique le process, en plus de l'attente, quand je lui explique comment Sidonie m'a envoyé comme des signaux positifs, elle me dit, écoute, ça sent bon. Elle dit, qui suis-je pour te le dire, mais crois-y, ça sent bon, je te soutiens à mort. Donc voilà, encore une voix amie qui soutient. Quelques jours plus tard, j'attends la réponse et là, j'ouvre mon mail et on me dit que le manuscrit a été lu. Sidonie me fait un feedback de tous les gens du comité de lecture et là, on me dit que c'est pas repris pour cette collection. Donc le mail, il fait 10 lignes, j'ai lu 2 lignes et je me mets à chouler en mode c'est mort. Je vous jure, c'est l'émotionnel pur de ce suspense, de l'attente, d'ouvrir ce fameux mail où tu dis c'est un oui ou c'est un non. Et vu dans ta tête, tout était manichéen, c'est oui ou c'est non. Je vois la première ligne où je me dis il n'a pas été repris pour cette collection. Je me mets à chouler en mode c'est mort, il se passe rien. C'est bon, il faut trouver un plan B, un plan D, un plan Z, je ne sais pas. Après, je me dis, hello, allez, cocotte, t'as pas lu tout le mail, donc lis à fond, calme-toi, respire, lis à fond. Et en fait, ce qui est fantastique, maintenant je le vois a posteriori, c'est que le feedback du manuscrit, il est mis très bon manuscrit. Très bon manuscrit. Donc je me dis, mais comment t'es passé à côté de ça? Il est mis très bon manuscrit. Et Sidonie me dit, moi je pense qu'il est plus approprié de l'envoyer dans une autre collection qui est la collection littérature. Et là, je me dis, et elle me dit, bah, à ce moment-là, il faut attendre encore un petit peu, mais ce sera rapide. Là, je suis tellement encore dans l'émotionnel, mais je me dis, il y a encore une chance, il y a encore une chance. Je suis un peu, oh là là, je vous jure, mon cerveau, il est shooté à toutes les émotions en même temps. Donc, c'est comme si j'étais un petit rat de laboratoire en train de prendre la cocaïne ou l'amphétamine ou je sais pas quoi. J'étais sans dessus dessous, je ne savais plus quoi penser. Donc, je sonne à Karine, j'envoie un message à Marie, j'écris à Caro, j'écris à toutes mes copines, j'écris à Anna, ma meilleure amie, j'ai rameuté tout le monde. C'est vraiment. Je fais pas souvent ça, mais je vous jure, j'ai fait un petit comité de soutien VV Prime en une heure. J'envoie le texte pour ne pas les influencer. Je dis voilà ce que c'est, qu'est-ce que vous en pensez. Elles me disent toutes la même chose. Elles me disent mais c'est fantastique. Et moi je me dis mais moi j'ai ouvert le mail, j'ai tchoulé quoi. Et en fait c'est pour vous dire à quel point je mettais de l'attente et de l'espoir et que tout commençait à me ronger nerveusement. Je n'étais plus saine d'esprit, j'étais plus rationnelle, j'étais plus du tout objective pour pouvoir le lire. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que elles ont tout analysé chacune de leur côté sans se concerter. Elles m'ont dit, mais c'est fantastique. On te dit que ton manuscrit est très bon, qu'il n'est peut-être pas au bon endroit dans la bonne collection, qui est Évasion, et on te propose d'aller le mettre en littérature. Donc c'est génial. Il y a même une amie un peu aventureuse qui m'a dit, même deux, mais en fait c'est génial. C'est un peu comme une promotion. T'as Évasion ou t'as littérature. Voilà. Donc je me suis dit, oh oui, présenter sous cet angle, ça peut être cool. Mais à nouveau, ça peut être cool. Je n'ai pas de réponse de oui. Donc, je m'étais dit en octobre, je suis déjà testée. Je m'étais dit en janvier, je suis déjà testée parce que début janvier, j'attends la réponse. Presque fin janvier, j'ai la réponse. Je me dis, mais je suis testée. Et je vous jure, je regardais à chaque fois le ciel et je me dis, je suis testée. Mais jusqu'où? Parce qu'à chaque fois, je me dis, ça va arriver. Et on met une couche d'attente, de patience. Donc, ma patience, ma foi, ma croyance dans mon projet, tout ce que vous voulez, est testé à tout niveau, tout le temps. Et donc là, rebelote, ça passe dans les mains d'un nouveau comité de lecture chez Littérature de l'Academia et je vais encore attendre. Ok, donc je suis censée être cool. Et bien là, je peux vous jurer que c'était le moins cool, le moins cool, le moins cool. Je commence à m'épuiser, je commence à être fatiguée et j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Mais j'ai une super bonne copine, j'ai une team, j'ai une task force qui est là et qui me dit tout va bien, hello, c'est fantastique, patience, 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 j'y crois. Je croise quelqu'un qui me dit j'y crois tellement pour toi et entre-temps, je vois des plumes, je vois des gens au travail. Non pas que j'en parle beaucoup, mais comme si les gens reniflaient. Peut-être que je sais pas quel était mon visage à ce moment-là, est-ce que j'avais l'air au bout de ma vie, est-ce que j'avais l'air fatiguée, est-ce que je faisais peur à voir, je ne sais pas, mais spontanément des plumes et des gens que je croise me disent mais moi j'y crois tellement pour toi, évidemment que tu vas être édité, c'est pas possible autrement. À nouveau j'envoie un énorme merci parce que oh là là là, c'est avec des gens comme ça qu'on arrive à sourire malgré tout dans l'attente douloureuse. Oui, si ça s'arrêtait là, ça pourrait être encore assez fun. Toujours est-il que nous ne sommes que fin janvier. Je pars en week-end en amoureux avec mon chouchou à Malines. Donc ça doit être bien, détente, tout ce que vous voulez. 10 jours après, je pars en week-end à Lyon avec Karine pour aller voir Benjamin Biolay au Philharmonique. Autant vous dire que je l'attendais avec beaucoup d'espoir et je me dis, bah, j'ai quasiment des week-ends coup sur coup, je vais pouvoir penser à moi, me détendre, me chouchouter, voilà. Et en fait, oui, évidemment, sur le moment, je passe des moments merveilleux, etc. Mais ça reste chaud parce que je rentre de Lyon et je me dis, mais là, je reviens à nouveau à un cercle d'écriture. C'est que le cercle finit tard, il est 23h. Je rentre chez moi, je suis épuisée. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Et c'est quelque chose qui m'est arrivé deux, trois fois en tête ces derniers mois. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Tu t'épuises, tu continues à t'épuiser. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait un petit peu peur, mais que j'écoutais pas. Vous voyez la phase du déni dans la courbe du changement, on y est. Je suis pas totalement ok avec le fait d'admettre que je suis en train de m'épuiser et que j'ai cette sensation. Donc ça fait 5 ans bientôt en septembre que je suis indépendante dans mon activité. Je sentais arriver en moi que j'étais un peu comme un petit hamster en train de rouler dans ma roue, de refaire les mêmes choses. C'est génial, j'adore faire tout ça. J'adore coacher, j'adore accompagner, j'adore faire des cercles. Mais à nouveau, je me rends compte que ce petit hamster est en train d'aspirer à autre chose, en tout cas en partie, et cette autre chose n'est pas encore validée, qui est de pouvoir vivre pleinement de mon écriture à certains endroits. Et d'un autre côté, bah, je me fatigue, quoi. Et là, je devrais le savoir, j'ai fait un burn-out en 2018, vous voyez, donc le super déni de la fille qui pense avoir tout compris à la vie. Parce qu'elle avait trouvé l'outil d'écriture pour être bien, mais en fait non, on se reprend des trucs de temps en temps. Toujours est-il que un super moment magique, incroyable, c'était le concert de Benjamin Biolay et Karine. Je vous jure, un philharmonique, c'est d'une puissance de malade. Et Benjamin Biolay chante la chanson dans ses derniers albums, Comment est ta peine, avec des violons. Et il y a des larmes qui coulent et je me dis, j'espère que Karine ne me voit pas, j'espère que Karine ne me voit pas. Je suis prise de tremblement et d'une émotion. Comment est ta peine? Vous savez, cette chanson-là, elle est sur Spotify, elle est assez rythmée, elle est assez, voilà, un peu rock aussi parfois. Mais là, avec le philharmonique, il n'y avait que le texte. Et je reçois le texte comme une claque dans la tronche. Je vais pas dire que je pense que Benjamin Biolay me parlait. C'est pas ça. Et je n'oserais surtout pas le dire à Karine, elle va être jalouse. Trêve de plaisanterie. Mais je me dis, hello, c'est pas possible. T'es pas juste une émotion de waouh, c'est un beau concert, tu vibres. Ces mots viennent chercher quelque chose en moi qui est assez intense. Et là, on rentre dans une ambivalence de malade parce qu'en même temps, on sort du concert. On attend la sortie des artistes parce que je suis devenue la teammate de Karine pour rencontrer Benjamin Biolay à chaque fois qu'on a l'occasion de le voir. On attend. Il y a cette pleine lune magnifique au-dessus de nous et je la vois et c'est comme si je m'adressais à elle et je lui dis, je sens une force en moi, j'ai confiance. Et à chaque fois, je vous dis des moments dark et en même temps, j'ai ce truc qui revient, j'ai confiance. Et je le dis, je me sens à ma place, je fais toujours ce qu'il faut. Et pourtant, dès mon retour de Lyon, c'est un peu comme si j'étais retournée comme une crêpe. comme si on m'avait fait une prise de karaté et que d'un seul coup on m'avait taclé les chevilles et je me retrouvais à terre en 2 secondes. Je n'en peux plus, quoi, de cette situation. Et c'est moi, je suis un peu drama queen, hein. C'est tout ou rien, je suis très entière, mais la preuve, c'est que ça pouvait être un week-end magnifique, on a passé des moments sensationnels. Et à côté de ça, je reviens et je me dis, Hello, tu n'es pas reposée. Il y a quelque chose qui l'attend. Il y a quelque chose sur la surface, il va falloir plonger. Déni, je reprends le boulot, comme je vous dis, je vais au surf, je m'épuise, nanana, je fais mes coachings. Et il se passe un truc qui est qu'un des prochains cercles, je dois y aller. Et j'ai, comment appeler ça, j'ai une crise d'angoisse, quoi. Ça m'était plus arrivé depuis 5 ans. Je n'arrive pas à respirer, je tremble, ça ne va pas. Ça ne va pas, donc je vais le faire. Et j'arrive au cercle, je dis, écoutez les filles, ça ne va pas. Et c'est la première fois que je me suis ouverte à elles quand même comme ça, parce que même si on partage le moment de sororité et tout, j'ai quand même ma posture de coach et d'animatrice et de... Je suis davantage là pour elles et pour les coacher. Et c'est moi un peu qui anime et qui envoie des ondes positives à tout le monde. Mais là, elles arrivent, elles voient que ça ne va pas. Donc, les filles du cercle, je vous aime du fond de mon cœur. Elles voient que ça ne va pas. Et en fait, j'ai animé après comme il faut. Tout le monde a pu écrire. Mais j'ai fait une crise d'angoisse avant d'arriver, en arrivant. Il y a un truc qui ne va pas. Le lendemain, je peux vous garantir que je suis chez mon médecin tout de suite. Parce que je connais ce genre de signaux, et là, j'ai peur, et en même temps, je me suis fait une promesse, plus jamais, jamais, je rebascule dans un burn-out, dans un épuisement grave. Et là, j'ai une grosse secousse, parce que, sans savoir ce qui se passe dans ma vie familiale, ou machin, littéraire, ou quoi, la médecin me dit, écoutez, si vous étiez salarié, je vous mettrais en arrêt, quoi. Et là, ouf, il faut pas me dire ça, parce que ça m'a vraiment fait flipper. Et donc, j'ai pris des mesures drastiques qui ont été. Déjà, je me taille la montagne avec mes enfants. Je vais prendre de la hauteur, littéralement, et je vais analyser tout ça. Et en fait, j'analyse ce qui se passe. Quelque chose qui est une dernière peur à débloquer dans mon processus de femme, mère, écrivaine. J'ai peur d'avoir un nom pour le manuscrit, évidemment. J'ai peur d'avoir un oui. Parce que je suis fatiguée, je suis éreintée. Et ça veut dire que si on doit commencer ce processus de lancement de livre, premièrement, je ne commence pas au meilleur endroit, émotionnel, voilà. Deuxièmement, je suis fatiguée aussi parce que j'ai beaucoup donné du côté du travail et que là, je sens que j'ai mes enfants, j'ai mon aîné, j'ai un challenge qui m'attend, qui est d'accompagner un enfant vers un diagnostic. Avéré du trouble de l'autisme. Donc, on va parler d'Asperger en langage un peu commun. Mais j'ai pas encore de réponse à ce moment-là et j'ai besoin de réponse. Et je me rends compte, je suis épuisée d'avoir 2 inconnus dans ma tête qui sont est-ce que je me trompe pour mon fils? Et en même temps, je veux savoir est-ce que je me plante dans l'écriture? Est-ce que je dois juste arrêter et juste bosser? Bosser normalement, vous voyez, nourrir le foyer, participer aux factures et juste faire ça. Et je suis dans un état de désolation totale parce que je me dis, je ne sais pas comment faire pour résoudre l'équation. Je veux être coach, je veux accompagner tout le monde, je veux accompagner tous les projets de tout le monde au bout. Je veux que mon projet prenne de la place. Je veux oser être moi-même écrivaine et je veux être la meilleure des mamans et présente pour ce qui est un challenge quand même dans la vie d'un enfant et d'un parent, d'accompagner un enfant. Dans un trouble, quoi, qui est à vie. Et là, heureusement, je suis sur le télésiège avec mon papa. On papote. Et il y a beaucoup de choses. Il y a ma maman qui nous soutient. Et donc, j'accepte que je n'ai rien à faire à part rentrer chez moi et prendre des décisions. Donc, après avoir vu un médecin, je vais voir ma psy. Et ma psy, qui m'a super bien aidée il y a 5 ans, je la vois, je lui explique un petit peu ce qui se passe. Et elle me dit... écoutez, il va falloir lâcher quelque chose. Et je rentre dans une colère monstre parce que je me revois, je suis devenue vulgaire. Je me suis excusée auprès d'elle après, mais j'étais en colère. Je ne veux rien lâcher. Je veux faire tout pour tout le monde, pour moi. Je veux accorder le même temps à tout le monde. Mais en fait, c'est une équation irrésolvable, je ne sais pas si ça se dit, insoluble, parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Et là, ça devient radical. Je me retrouve dans un stress qui a fait de ma décision. Et ben pendant 2 mois, j'arrête d'animer tous les cercles d'écriture. J'adore, je veux le faire. Mais si je dois jouer sur un endroit, c'est que je dois être reposée. Je dois être reposée pour avoir les idées plus claires. La chose qui me fatigue le plus, mais comme qui me transporte le plus, c'est comme si, je sais pas, vous allez voir un concert, vous allez faire une pièce de théâtre. C'est super gai d'être sur scène ou de, voilà, ou de donner quelque chose de soi, mais on rentre, on est exalté. Moi, quand je rentre de 23 heures d'un cercle, je ne sais pas m'endormir tout de suite. Et donc, je me dis, hello, si tu veux voir clair, prendre des décisions, rééquilibrer certaines choses, il va falloir dormir. Dormir et sentir que tu es aussi très présente pour tes enfants et ton mari. Donc là, j'ai dû prendre des décisions qui m'ont fait peur, parce que ça me fait peur de me dire, est-ce que je suis en train de faire des promesses à plein de gens qui sont de les aider, les accompagner? Ben alors, je continue les coachings, je continue les manuscrits, mais j'ai l'impression d'avoir, à un moment donné, abandonné, et c'est vraiment débilos comme sentiment, mais d'avoir abandonné des plumes pendant 2 mois. Et là, ben, je retravaille un nœud qui était déjà le même nœud il y a 5 ans quand j'étais en burn-out prof, c'est qu'en fait, c'est pas vrai. Les gens se débrouillent sans toi. Les gens se débrouillent. Celui qui veut vraiment faire son projet, avec ou sans coach, il le fait. Et la preuve, c'est que j'ai vu des nanas qui sont mobilisées et qui continuent d'écrire, et elles sont fantastiques. Mais ça m'a rappelé une méga grosse leçon d'humilité, et c'est ça qu'on se prend dans la lessiveuse et qu'on se prend le sable dans la vague la plus haute qui nous ramène vraiment dans le fond, c'est « je ne suis indispensable à personne ». La seule chose qui est nécessaire, c'est que je dois être présente pour mes enfants. Et ensuite, c'est beau, parce que je dis ça à ma psy, je dis bah, « ok, j'arrête d'écrire, c'est bon, moi je vais juste être une maman complètement dévouée à ses enfants ». Et en fait, je dis ça, je dis « je n'écrirai plus, alors j'arrête d'écrire, parce que ça me prend du temps, l'énergie, ça me fatigue, on coupe ça de l'équation, quoi ». Et là, je le dis à ma psy, je vois qu'elle presque a envie de rigoler, mais elle se retient, je le dis à mes amis, je le dis à Karine, je dis « mais t'es folle ou quoi ? C'est toute ta vie l'écriture, c'est ça qui te donne de l'oxygène, c'est ta médecine naturelle, t'es douée ». Et donc là, je me dis, c'est une team d'amis qui me secoue aussi, qui me dit « mais t'es non ». Et à nouveau, au moment où j'ai peur de lâcher certaines choses dans le boulot, pour explorer, voir comment je vais pouvoir résoudre l'équation d'écrire plus, trouver les solutions pour accompagner mon enfant aussi, ces plumes magnifiques, j'ai de l'amour pour vous, j'ai de l'émotion qui monte là, donc on va faire une pause. Ces plumes fantastiques, elles se reconnaîtront, m'ont toutes dit hello, tu fais exactement ce qu'il faut, bravo, merci. Donc bravo et merci quand tu dis que t'abandonnes les gens quelques semaines, quelques mois, waouh. Et j'ai reçu tellement de messages, merci, tu me renvoies un message, qu'il faut penser à ce qui est important pour nous, il faut savoir s'arrêter, il faut nourrir les choses qui sont prioritaires. Et donc j'étais là, mais je vous ai rien demandé, je vous disais juste que j'allais faire une pause. Elles ont toutes été en mode on sera là, on est là quand on peut, et on continue d'écrire, on continue de se voir. Et c'était des messages d'amour et de soutien de malade. Et là j'ai pris conscience d'un truc, je reviens avec mon mantra, dans un moment dur, où est le cadeau? Le cadeau, c'est que j'ai à nouveau un mec qui me soutient à fond, qui me dit « tu veux être plus écrivaine ? Tu veux trouver plus de temps pour écrire ? On trouvera les solutions, on va voir, on explore, ok. Teste pendant 2-3 mois, comment ça se passe, et moi je te soutiens. » Sans compter qu'il est le super soutien aussi dans cette parentalité où nous sommes deux parents à accompagner un enfant différent. Et là, je découvre, mais comment en avais-je douté, que toutes ces plumes, c'est cette communauté, ce groupe du mot qui délivre, ce noyau dur hyper présent m'envoie oui, hello, c'est important pour toi, et nous on est là, on attend et on t'envoie ce qu'il faut et on se débrouille sans toi, tout va bien. Donc ça c'est cool. Et à ce moment-là, je vivote, je donne mes coachings, je fais des grosses siestes, je dors beaucoup mieux le soir et les clartés reviennent. Et les clartés, c'est que j'ai écrit non-stop à nouveau dans mon carnet pendant des semaines. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux arrêter d'écrire ? Non. Tu t'es bien foutu de ta gueule pendant 24 heures, tu continues d'écrire. Je l'ai dit dans les autres épisodes du podcast, je l'ai noté tellement de fois, je suis écrivaine. Alors je suis retournée en constellation familiale chez Christelle O'Connor, qui était invitée dans un podcast précédent, et j'ai fait l'exercice qu'elle m'avait dit de faire, qui était de me voir vraiment telle que je suis, telle que j'aspire être. Et en fait, c'était ce truc qui revenait tout le temps, je suis mère écrivaine. Et ça revenait, j'étais sous une forme de légère hypnose, j'étais dans un état un peu électrique, énergétique, second, et je vois ce truc qui revient tout le temps, et la lumière, je suis mère écrivaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas un que je dois abandonner, n'y en a pas un que je ferais moins bien que l'autre, je peux être les deux en même temps. Donc je suis sortie de là, ça devait être fin mars, je pense que c'était au moment de mon anniversaire, c'était un cadeau que je m'étais fait, d'aller rebooster tout ça quoi. Je sors de là reboostée en mode, mais oui, tu fais exactement ce qu'il faut, et confiance en toi. À ce moment-là, ce qui est fantastique, c'est que j'ai une autre amie, Marie Meurice, qui m'envoie des petits podcasts et tout. Et dans le podcast, elle m'envoie une image qu'elle avait reçue et que je comprends et que je valide totalement maintenant. C'est qu'elle disait, mais quand tu vois un insecte, une chenille avant de devenir papillon, c'était l'autrice du podcast qui en parlait, et j'en ai parlé avec Marie après, elle me dit, mais ce qu'on oublie, c'est que entre la chenille qui se met dans sa chrysalide et qui devient un papillon, c'est que la chrysalide, le moment, ça dure super longtemps. Et ce drôle d'insecte baigne dans un jus qui est un peu dégoûtant, quoi. On dit moth en anglais, c'est une sorte de jus, de petit jus. Il y a plein de nutriments, mais en même temps, c'est dégueulasse, c'est collant, c'est inconfortable, c'est gluant. Et donc, la chrysalide, elle est là, elle te laisse te baigner dedans. Et alors, j'ai réussi à en rigoler avec Marie. Je dis, bah oui, je suis dans ma petite chrysalide, quoi. J'attends mon heure pour être un papillon. Et ces mois de pause, en tout cas, d'animation de cercle en soirée, de ralentissement, parce que j'ai toujours continué à coacher avec beaucoup de plaisir, à relire des manuscrits avec beaucoup de plaisir. Mais à un moment de ralentissement, avec des décisions un peu radicales qui ont été prises, avec cette image, merci Marie, je me disais, mais tout va bien, t'es dans ton petit jus, donc baigne, prends tous les nutriments, repose-toi, prends des forces, continue d'être nourrie, inspirée par ce qui doit l'être, parce que tu prends une décision qui est juste et qui est belle, tu vas encore plus t'honorer en tant qu'écrivaine, quoi. Et donc ça, c'était chouette. Donc j'ai baigné dans mon petit jus, dans ma petite sous-soupe, pendant végétal, animal, pendant 2 mois. Et en fait, c'est génial parce qu'à ce moment-là, j'ai retrouvé les sensations du burn-out qui sont en tout cas assez cool quand on a dépassé la phase de stress, qui sont... Déjà, j'étais à la limite, mais j'étais pas. Donc, je me suis rappelée que j'ai des ressources et j'ai des entourages et j'ai appris des choses qui m'empêcheront, je pense, toujours de retomber dans cet état-là. Mais à nouveau, j'étais au précipice. J'ai vu, je peux y aller, j'y vais pas. Et là, encore en discutant avec des amis et avec ma famille, je me dis, t'imagines ce truc qui est mon rêve d'écrire, de me voir publier, mon rêve aussi d'avoir une vie de famille épanouie, etc. À quel point ça vient te chercher? Et là, j'étais vraiment, j'étais plus dans l'émotionnel, j'étais plus en drama queen, comme quand j'ai ouvert mon mail la première fois de Sidonie. Mais je me suis dit, mais waouh quoi, c'est tellement important, c'est tellement intense, c'est tellement ce que tu veux dans la vie, que ça t'emmène dans tous les endroits possibles. Entre-temps, je redonne un petit atelier bibliothérapie et il y a une sage-femme qui est arrivée à la pension, Claire, et on discute souvent avant, après. Elle me dit, mais oui, t'es dans une phase. Et elle dit, tu sais, une femme, avant d'accoucher, elle entre dans cette phase quelques heures, quand c'est vraiment la dernière étape avant que le bébé naisse, c'est la fameuse phase de la désespérance. C'est où la femme ne sait plus si elle va mourir, si elle sait, si elle est capable, elle perd tous ses repères. Et donc, elle m'a rappelé que cette sage-femme, qui est une phase de désespérance. Donc, je pense que je suis passée en février, mars, par cette étape de phase de désespérance de l'accouchement de mon livre. Et en fait, après, c'est la fameuse étape de la délivrance. Et ça, c'est cool. Ensuite, il y a 2-3 petits moments vraiment sympas qui sont que ce moment de fatigue, une fois qu'il est assumé, c'est faire des siestes. C'est aller travailler, mais entre les coups, se reposer. C'est se rendre compte que on est à nouveau attentif à plein de petites choses. On est attentif aux signes, aux synchronicités. Je ne vais pas refaire un épisode là-dessus parce que ça va durer longtemps, mais un jour, je ferai un épisode spécial juste sur les signes et les synchronicités parce qu'il y en a énormément. Je pense que je préfère un gros épisode de 40 minutes rien que là-dessus. Et donc, je me suis amusée à noter, à collecter tous les signes. Toutes ces choses qui me disaient, tu prends à nouveau un risque parce que tu es en train de redéfinir certaines choses dans ton boulot pour créer plus de place, pour être mère à l'échelle que tu souhaites, et pour être surtout aussi écrivaine et avoir du temps pour écrire, parce que je fais la maline, mais entre-temps, j'ai plus beaucoup écrit. Hein. Ok, mon deuxième roman, il s'écrit, mais vachement lentement, quoi. J'écris page par page et pas chapitre par chapitre pour l'instant, donc il faut écrire, j'en ai besoin. Et bah, je me suis rendu compte que je prenais des risques, j'avais des petites peurs, mais j'étais en train à nouveau de les dépasser. Et là, j'ai une énergie, je me sentais dans une acuité, je me sentais dans... Je ne sais pas ce qui se passe, mais je le laisse faire, ça va aller. J'ai parfois envie de pleurer, je suis encore un peu fatiguée. Je crois toujours que mon livre, ça va aller. J'ai une intuition forte qu'au niveau familial, ça va aller aussi, mais je dois être radicale. Je dois prendre des décisions qui me semblent justes et dans la justesse. Et Caro, ma grande amie Caro aussi, Caro de Haran, me dit « Hello, bordel !» Parce que Caro, mais là, tu seras toujours un bordel quelque part. Elle me dit « Là, c'est le moment d'être égoïste. » Et donc, j'ai accepté d'être ce qu'on pourrait dire égoïste. J'ai pensé plus à moi avant les besoins peut-être d'autres personnes à certains endroits. Il s'est passé aussi une dernière petite chose, je vais quand même vous en parler, même si je pense que l'épisode commence à devenir un petit peu long, mais c'était quand même assez fou, c'est que fin janvier, quand j'attendais cette réponse pour savoir si j'allais pouvoir être publiée ou pas chez Academia, je me suis dit, mais même si c'est pas ça, il faudra décider autre chose, parce que je vais mettre ce livre dans les mains des gens. Et il y aura d'autres livres que je dois écrire, que je veux écrire. Donc il faut que je trouve plein de choses pour être encore plus dans cet état où je peux écrire et être autrice. Et là, on m'envoie des infos, résidence d'autrice, prix de la SCAM, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je vois ça comme un drapeau rouge qui s'agite et qui me dit, mais voilà, si tu veux être écrivaine, remplis ces dossiers, demande ces subsides, machin, machin. Et j'étais crevée et je vois en même temps que je m'agite et je remplis le dossier et je m'épuise à nouveau. Mais si c'était des possibilités sympas, des opportunités sympas. Et en fait, quand je remplis ces dossiers, à chaque fois, mon ordi plante. Il plante, il plante, il plante, si bien que mon alimentation ne fonctionne plus. Comme si à chaque fois, je voulais me remettre en selle pour essayer de travailler, soit d'écrire, de remplir des dossiers, des trucs pour aller vers là. J'étais tellement épuisée que mon ordi plante. J'ai racheté une alimentation au petit geek boutique à Liège du coin. Je vous jure que la deuxième alimentation a littéralement explosé. Elle a cramé sous mes yeux. Et je me suis dit, Hello, arrête. C'est pas pour maintenant. Arrête, laisse faire. Il se passe d'autres choses prioritaires. C'est pas pour maintenant. Je vais essayer d'aller vite, vite, vite à l'issue. C'est finalement. Je ne sais même plus comment ça s'est passé. Je pense que une ou deux personnes m'ont demandé quoi, l'attente de ton livre, ça se passe et tout. Et je suis arrivée à une sorte de lassitude parce que la réponse du deuxième comité de lecture était toujours en attente. On m'avait dit attente rapide, mais je n'aurais jamais peut-être les réponses. Mais j'ai dû quand même attendre encore plusieurs mois. Et c'était juste en fait. C'était juste parce que je me suis dit, Hello, t'es passé par un endroit personnel de fatigue et de grands questionnements au niveau de comment tu gères ta famille, comment tu peux accompagner ton enfant. Est-ce que tu as besoin d'être plus présente pour lui? Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est des rendez-vous à gauche et à droite, à plein d'endroits, neuropsy, enfin, psychomotricité relationnelle, plein de trucs. Et alors, à ce moment-là, je me rends compte que c'est beaucoup d'heures aussi passées en accompagnant mon enfant, en l'emmenant à des endroits, en faisant plein de choses pour lui, et mon deuxième aussi, qui a besoin de sa maman aussi. Et là, je me suis rendu compte que je n'aurais même pas pu vivre et accueillir positivement un oui à ce moment-là. Et là, vous allez rire, vous savez bien que je suis un petit peu spirituelle, je me dis, mais c'est que le timing n'était pas le bon. Je n'aurais pas dû et pu recevoir un oui à ce moment-là, dans une zone où j'étais vraiment pas ancrée, où j'étais pas bien, et qu'en fait ça m'a permis de retravailler certains points pour me retrouver, retrouver ma justesse, repenser une nouvelle façon comment vivre de manière juste cette vie créative et personnelle. Et au moment où deux, trois copines m'ont demandé quoi, la réponse Academia, littérature, ça vient ou pas, je pense qu'une fois ou deux, j'ai envoyé un sourire en disant pfff. Genre, en fait, à ce stade-ci, ce n'est plus du tout ma préoccupation première. Et là, vous voyez, lâcher prise. J'ai rigolé au début de l'émission, du podcast. Parce que je me dis, non, je ne lâchais pas prise. J'étais dans la lutte, dans le déni, dans la colère, dans la tristesse. J'ai vraiment été en colère. Hein. Sur la fameuse courbe du changement, je me revois chez ma psy. J'étais, mais grossière, en colère. Je ne veux rien lâcher. Je veux faire tout. Et puis, j'ai commencé à me mobiliser, à réfléchir aux solutions. Et quand c'est devenu plus serein, c'est là que vous m'attendez au tournant, je suis sur la courbe du changement qui remonte vers le haut. Quand c'est plus serein, quand j'ai fondamentalement lâché prise, quand j'ai remis mes priorités au bon endroit, parce que la vérité, c'est que ce sera toujours mes enfants en premier. Et en même temps, ce n'était pas que ça, j'ai accepté, validé aussi que je ne peux pas être que toujours, toujours là pour mes enfants à 100%. je pour être bien et être une meilleure mère et une meilleure femme en général pour tout le monde, je dois m'épanouir dans la lecture. C'est là que je suis bonne et c'est là que je suis bien et c'est là que je peux, j'imagine, rayonner, si je peux prendre ce mot-là en sens juste neutre et assez positif. Mais je me dis, là, hello, en fait, maintenant, je m'en fous. Je sais où sont mes priorités. Si ça vient, ça vient. Si c'est pas ça. Et si c'est pas ça, j'étais en mode, il y aura d'autres solutions. J'étais déjà en train de réfléchir à d'autres solutions avec Perrine Dessine, avec d'autres connaissances qui ont auto-édité. J'étais prête à passer par tous les endroits pour amener ce livre dans les mains des gens. Donc, je suis dans un lâcher-prise total. Je vous jure, c'est la vérité totale. J'accepte une dernière petite chose qui est que j'ai un rendez-vous avec des copines, on boit un thé, et là, je leur dis, écoutez, j'ai juste envie de savoir, et vous pouvez les interroger, elles vous diront la vérité, c'est vraiment ça, comme ça s'est passé, je dis, à ce stade-ci, je veux juste savoir, et si c'est oui, tant mieux, si c'est non, tant mieux. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre d'avoir des inconnus, je veux savoir vers où je vais. C'est un vendredi, je sors de là, mes copines me disent « mais envoie un mail, dis juste que t'as besoin de savoir, que t'as besoin d'organiser la suite de ton année, etc. » Et donc, il est peut-être 15h, j'envoie vite un message à l'éditrice. Et je dis « écoute, c'est pas pour mettre la pression, c'est pas du tout mon genre, mais là, j'ai besoin de savoir. » Je lui expose 2-3 raisons pour lesquelles j'ai besoin de savoir. Parce que sinon, j'ai besoin de savoir avec qui, quoi et quand et comment ce livre va être dans les mains des gens. Et donc, en gros, sous-entendu, ben, c'est avec vous ou c'est pas avec vous, mais moi, j'ai besoin de savoir. À ce moment-là, je reçois dans l'heure une réponse qui me dit « oh, je suis désolée, désolée, ça va vite arriver, on t'aura vite ta réponse, etc. » Le lundi d'après, j'ouvre mes mails, pas de réponse. Et le mardi, je suis en route pour aller chercher les enfants à l'école. Et là, j'ai retrouvé mon mojo. Je me sens bien, je me sens hyper cool. Et voilà, j'ouvre un mail et je vois que c'est ok, c'est bon. Le comité de lecture de la collection littérature chez Academia a dit un grand oui. On l'édite, évidemment qu'on l'édite. Et là, je me mets à planer, à pas comprendre ce qui se passe. Et d'avoir quand même ce moment, dire ok, tu dois chercher les enfants, mais garde 5 minutes quand même pour apprécier ce qui se passe parce que c'est la réponse que t'attendais. Et j'ai eu le temps de fixer ce truc dans ma tête. Et ben en fait, il fallait vraiment tout donner. Il fallait vraiment s'accrocher. J'ai été testée, à tel point que j'ai dit un jour, j'arrête l'écriture. À quoi bon ? C'est vraiment drama queen, mais vraiment. Et j'ai pu m'arrêter quelques minutes et me dire, waouh, c'est en train d'arriver, c'est tout ce que tu voulais, et ça arrive au moment où t'es dans un meilleur espace. C'est juste à nouveau toi. En plus, toi qui est encore différente de celle d'il y a 3 mois, parce que ta vision est beaucoup plus claire, tes envies ont été réactualisées par rapport à celle d'il y a 1 an, ou il y a 6 mois, ou il y a 5 ans. Donc j'ai eu l'impression de recevoir la réponse au moment où j'étais vraiment au bon endroit, au bon moment pour la recevoir. Et donc j'ai pleuré, et j'ai pas pleuré tout de suite, c'est parce que j'ai vite envoyé un message à Karine, à Marie et à Anna et à Caro. Et j'ai fait un message vocal à Anna, ma grande amie d'il y a 20 ans. Et au moment où je lui fais un vocal, parce qu'elle a un tout petit bout et je voulais pas la déranger, je dis je lui fais un vocal. Et je vous jure, j'avais une boule dans la gorge, j'avais vraiment envie de pleurer. Je crois que j'ai pleuré. Et j'avais besoin de le vivre avec ces personnes qui sont les premières personnes qui croient en toi depuis le début. Depuis le début, quoi. Et donc, ça m'a permis à nouveau de me rappeler qu'on n'a pas des belles nouvelles comme ça parce qu'on a tout tiré tout seul, quoi. Il y a des gens derrière nous qui sont là, qui y croient même avant nous et qui y croient encore plus que nous parfois. Et c'est toute cette petite équipe de plumes, de conjoints, de familles, de bonnes amies qui font que quand j'ai reçu ce oui, je l'ai reçu pour moi et en même temps je l'ai reçu pour me dire regarde tous les gens autour de toi qui t'ont soutenu, quoi. Donc ça c'est chouette. Et puis j'ai reçu mes enfants et là ça a été bonheur parce que je sais pas pourquoi les enfants je crois qu'ils sentent des choses parfois, ils ont couru dans mes bras et là ils disent maman j'ai pensé à toi, ben, mon Gaston justement, mon grand, j'ai pensé à toi, j'ai vu des plumes dans la cour et j'ai ramassé les plumes. Et les plumes c'est vraiment quelque chose qui est un signe pour moi que je suis sur la bonne route. Et je pense qu'il m'en a sorti 3 d'un coup et j'étais là, oh je vais pleurer devant eux. Donc c'était vraiment un moment super fort, super beau. Que dire d'autre, je crois que je suis arrivée à l'école, j'étais comme si j'étais ivre, sans avoir bu d'alcool, comme si j'étais pompette, sans avoir rien fait. J'étais un peu à côté de mes pompes et en même temps hyper présente, hyper en pleine présence, en pleine conscience de ce qui se passait. Et puis voilà, ça a été fête, fête, fête. Ça fait un mois et demi que c'est la fête, avec tout plein de gens, des restos, des trucs à trinquer, etc. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus que... C'est un grand soulagement. Et quand je vous parle de cette fameuse courbe du changement, quand je vois encore ces fameux questionnements, être mère, être présente pour eux, être challengée par la maternité, mais tout le temps, à chaque fois, en tant que parent déjà, mais être challengée dans la maternité par rapport à je suis artiste, écrivaine, créative, c'est pas évident. Et en même temps, voilà, je vous rappelle ce que j'ai vu chez Christelle en constellation familiale. Je suis mère écrivaine, je suis mère écrivaine. Et c'est un truc qui venait vraiment du plus profond de mon inconscient. Et à ce stade-ci, je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que oui. Et j'ai eu les réponses, toutes les réponses que j'attendais dans la semaine. À savoir que le mardi, je reçois la réponse pour Academia. Je vais être publiée. Le mercredi, j'ouvre mes mails et c'est un nouveau projet. Avec voilà, une nana et des personnes. J'aurais jamais imaginé qu'on m'invite pour rejoindre ce projet-là pour 2024, 6 mois, 1 an avant. Donc le mardi, j'ai la réponse. Le mercredi, on m'invite dans un projet collectif pour 2024. Ça veut dire une deuxième publication. Donc La femme seule. 2024, une deuxième publication. Le jeudi. On a rendez-vous, mon mari et moi, pour avoir enfin le diagnostic de notre enfant, qui est un soulagement incroyable. Depuis qu'il a 3 ans, je sens quelque chose. Et depuis qu'il a 3 ans, je me dis, je sens dans mes entrailles que c'est ça. Et on nous confirme que c'est ça. Et le vendredi, c'était l'anniversaire de rencontre avec mon mari. Et je vous jure, c'est moi, c'est peut-être mon univers romanesque, mais je vous jure que sur une semaine, tout était devenu hyper clair. Ou redevenu, parce que c'était déjà, mais... redevenu hyper clair. Le message que j'ai reçu, c'est quand tu sens un truc dans ton ventre, c'est que c'est juste et c'est que c'est fort et tu t'accroches et tu y crois. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau du boulot. Donc en fait, je suis sortie début avril d'une phase qui n'était pas cool et en même temps, pour laquelle je dis à nouveau un énorme merci. Parce que j'ai pu recevoir les réponses que je voulais quand j'étais dans la meilleure situation possible. Et en fait, tout ça n'a fait que donner une seule phrase dans ma tête, c'est que tu es assez forte. Tu es assez forte pour traverser tout ça. Tu es assez forte ensuite pour pouvoir le vivre avec des gens vraiment cool autour de toi. Ça va être un long épisode, hein. Peut-être qu'on va le couper en deux, je ne sais pas du tout. Mais ça veut dire que ça amène beaucoup d'émotions. Et je vous l'envoie maintenant comme quelque chose qui est partageable et universel avec toutes les personnes qui créent. J'aurais pu vraiment ne pas me mettre dans ces situations-là. J'aurais pu vraiment m'épargner tout ça. Et je l'hésitais, j'étais chez ma psy, je me dis je pourrais vraiment m'épargner tout ça. D'où le j'arrête d'écrire. Mais, et c'est là qu'il y a un mais, ça veut dire que si j'anesthésie tout ce qui est négatif, je m'anesthésie pour tout ce qui est positif aussi. Je ne peux plus recevoir ce qui me remue, alors je ne peux plus recevoir ce qui est fantastiquement beau. C'est du shoot pur. Quand on a cette réponse, cette validation, déjà de soi à soi, peu importe ce qui arrive, que je sois édité ou pas, peu importe, en fait je continue d'écrire. Et finalement, c'était l'édition, et tant mieux. Mais si ça n'avait pas été ça, je peux vous garantir, demander à des copines autour de moi que c'était déjà un plan B, qui était déjà au plan C, qui était déjà quasiment ouvert pour la suite. Tellement j'en suis sortie gonflée à bloc, ce livre, ce putain de livre que j'aime, qui me fait chouler à chaque fois que je le lis, parce que je l'ai relu encore, il va être lu, quoi. Donc voilà. Dernière chose, je remercie Sidonie parce que franchement, je l'ai eu la chance de la voir encore il n'y a pas longtemps, discuter du projet et je me suis sentie, mais comprise. J'ai senti que la femme seule, ça lui parlait à fond, qu'elle le portait avec moi. J'ai senti que les messages que j'envoyais ont été reçus tels quels et qu'elle souhaitait les envoyer à d'autres lecteurs, lectrices, hommes et femmes. Et donc je me dis, je suis arrivée au bon endroit, vraiment au bon endroit. Et ça, c'est une conviction profonde, au bon moment, au bon endroit. avec les bonnes personnes. Et si vous voulez qu'on revienne au début sur eux, ben oui, mais il y a un an, tu étais à Paris, il y a un an tout pile quand j'ai reçu la réponse, pour être édité, j'étais à Paris en train de déposer mon manuscrit. Et j'avais dit, je vous avais dit que je reviendrai sur Paris. En toute honnêteté, c'est sûr que je rêve un jour d'être édité à Paris. C'est sûr. Mais j'ai retenu un truc grâce à Lisette Lombé, grâce à Sidonie, grâce à mes amis avec lesquels on discute. À chaque fois, ce qui est fantastique, et je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, rien d'aller à Paris, c'est merveilleux tout ce que ça apporte comme apprentissage. Ici, j'ai encore appris tellement de choses. Est-ce que je veux que tout aille vite? Est-ce que, en fait, si ça va lentement et que ça prend du temps, est-ce que ça ne me permet pas d'apprendre à chaque fois des choses qui font que je suis plus forte, plus confiante, meilleure autrice, meilleure écrivaine? Et en fait, je me suis dit, mais hello, t'es encore en train d'apprendre, t'es une petite padawan de l'écriture, t'as 38 ans, tu t'es seulement bougé le cul il y a 2 ans pour écrire ton premier roman, et en fait c'est ok, parce que c'est là que j'avais des choses à dire, mais c'est ton premier roman. Et en fait déjà, premier roman, tout premier que tu aboutis de ta vie, il est édité, donc c'est un super message, c'est fantastique. Mais on remet les pieds sur terre, et ces 3 derniers mois m'ont remis les pieds sur terre à fond, et ça fait beaucoup de bien. Qui es-tu quoi? Qui es-tu pour te dire, je débarque à Paris parce que j'ai eu l'idée originale que peut-être 50 personnes ont eu avant moi d'aller le déposer, ça va suffire. Et je vous jure, j'ai appris des choses qui étaient, chaque étape est belle, chaque étape est fantastique et chaque étape t'apporte à chaque fois des nourritures pour la suite. Et donc un jour, oui, je serai éditée à Paris. Je rigole en vous le disant, mais j'y crois. Mais c'est même pas ça l'important, c'est d'avoir tous ces gens qui vibrent autour de moi, qui vibrent avec moi, que ce soit quand moi je vibre pour leur projet qui réussisse, que ce soit eux ou elles qui vibrent quand c'est mon projet qui réussit. Je retiens une chose, c'est qu'on est tous ensemble et tout ensemble pour faire des trucs. Et quand quelqu'un réussit, je suis super contente pour elle. Et qu'à un moment donné, j'ai comme eu cette force intérieure, égoïste, merci Caro, de me rappeler, là c'est ton tour, c'est ton moment. C'est ton besoin, tu le prends avant tout le reste. Et ça, c'est super important, donc je vous le dis aussi. Donc je n'ai aucun regret, aucun remords. Je referai les choses exactement de la même manière. À ce stade-ci, je ne suis pas déçue de ne pas être éditée à Paris. Je suis hyper dans la gratitude de me dire, quelqu'un croit en moi. Une personne, une femme en plus, comprend le livre, veut le porter avec moi. Et ce livre arrive dans les mains des gens très bientôt, fin septembre. Tout va bien. Je suis sur un petit nuage. Je vis les choses étape par étape en pleine conscience. Là, je suis en train de croquer la vie à pleines dents, à tous les niveaux. J'attends juste la suite qui est de décider la couverture, préparer une fête de lancement parce qu'on va faire la teuf-teuf. Ça, c'est sûr et certain. Et pas qu'une fois. Et là, ce qui m'attend, c'est de surtout pouvoir avoir mon retour quand ce sera publié. Et le kiff ultime, vraiment ultime, après la teuf-teuf et les verres, ce sera d'en discuter avec vous, d'avoir ce moment où on peut échanger, recevoir comment vous l'avez reçu ce livre, qu'est-ce que vous en avez compris. Et voilà, je continue d'être aussi votre coach, votre mama coach, hein? Hein, Morane? Hello! Votre mama coach. Je suis une mère hyper apaisée aussi, avec des enfants merveilleux. Et donc là je vis vraiment bisounours, mais je suis dans un état de grâce. Et je l'ai dit à une copine il y a quelques jours, là je suis sur le creux, vous voyez le lapsus, je suis sur le sommet de la vague. Tant qu'elle monte, elle monte, elle monte, je reste dessus. Mais ça reste une vague. Ça veut dire qu'à un moment donné ça se tarit et ça redescend, soit au niveau zéro de la mer. Et comme ces derniers mois, parfois c'est un gros rouleau, un vent contraire, un courant malade qui vient vous choper dans le fond. Donc à chaque fois que j'ai eu un moment comme ça, je sais qu'il y a eu des choses avant qui n'ont pas toujours été évidentes. Ça veut dire que tant que c'est là, on vit à fond. On vit la publication, on vit les super moments qu'on va vivre ensemble. Et il y aura encore d'autres choses dans la vie qui se passeront. Mais en tout cas, je ne dirai plus jamais que je n'écris plus. Je vous jure, j'écris tout le temps. J'ai hâte de me replonger dans mon deuxième roman aussi. Je pars en retraite d'écriture en septembre, juste avant la publication du premier. Je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ce que le deuxième roman va m'apporter aussi, quoi. Voilà. Ah, c'est un super long épisode. Je pensais que je pourrais faire tout dans 1 heure, mais il s'est passé tellement de choses en peu de temps. L'attente, ça veut dire quoi? Patience, patience, patience. Conviction, conviction, conviction. Soutien, soutien, soutien. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc voilà, est-ce qu'il y a des mots qui me délivrent aujourd'hui, après toute cette boucle qui est en train de se boucler? Oui. Le mot qui me délivre, c'est confiance. J'ai retrouvé confiance dans ma capacité à porter tous les projets que je veux. J'ai retrouvé confiance dans ma vie de mère aussi, où en fait, c'est bon d'avoir un parent qui vit sa passion aussi. Je pense que mes enfants le voient à fond et le vivent et le vibrent avec moi. Si bien que mon petit garçon, une fois, a dit à tout le monde, j'étais méga gênée, ma maman a reçu un prix parce qu'elle est la meilleure écrivaine du monde. C'était pas du tout ça. Mais dans ses yeux, je suis la meilleure écrivaine du monde. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui passe malgré tout. Donc je peux être avec eux, je peux être avec vous, je peux être avec mon conjoint et je peux être avec moi toute seule, comme la femme seule, pour écrire encore plein de livres. Donc confiance et voilà, kiff ultime. J'arrête là, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je suis un peu à la fois heureuse de vous raconter tout ça parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment se partager à tout le monde. Tout le monde vit des moments up and down. C'est une volonté chez moi de montrer quand c'est cool. Mais vous savez, Instagram et les coachings et tout, c'est pas que du bisounours attitude tout le temps. Donc je trouve ça important et presque, sans être trop sérieuse, mais un peu de ma responsabilité aussi de montrer que s'il y a des moments vachement cool, c'est qu'il y a des moments aussi autres autour, périphériques. Et qui amène aussi à ce moment cool. Donc ça, petite philosophie de la vie. Retournez voir la courbe du changement. Tout le monde la vit, tout le monde la traverse. Et ben franchement, merci de m'avoir écoutée. On se retrouve vite, que ce soit en coaching, en ville, si vous me voyez à un café en train d'écrire, je vous fais coucou. À vélo, je vois souvent des gens à vélo, je leur fais coucou de loin en traversant la ville. Ou on se voit au plus tard à cette grosse teuf de lancement du livre. À bientôt, ciao. Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.